VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde aujourd'hui, édition du mardi 18 juin 2019. En direct de Washington, Idrissa Soudoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Un chef rebelle tchadien, le général Mahamat Nouri, a été arrêté en France dans une enquête pour crimes contre l'humanité.
Au Burkina Faso, la prison à vie a été requise pour les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé, cerveaux présumés du putsch de 2015.
Au Niger, le Parlement a adopté hier une loi pour régir l'exercice du culte après qu'une église a été incendiée pendant le week-end à Maradi.
En Égypte, l'ancien président Mohamed Morsi a été enterré aujourd'hui au Caire, où il est décédé hier après un malaise lors d'une audition au tribunal.
La Voix de l'Amérique a obtenu un document officiel de Pyongyang selon lequel le leader nord-coréen Kim Jong-un n'a aucune intention de renoncer à ses armes nucléaires.
Washington envoie 1000 militaires de plus au Moyen-Orient après avoir publié de nouvelles photos sur la culpabilité de l'Iran dans des attaques contre des pétroliers dans le golfe d'Oman.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
En France, arrestation hier d'un important chef rebelle tchadien, le général Mahamat Nouri, et de deux autres protagonistes soupçonnés d'être liés à des exactions entre 2005 et 2010 pendant la crise au Tchad et au Darfour. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Le général Mahamat Nouri a été arrêté hier matin en région parisienne dans le cadre d'une enquête pour crimes contre l'humanité, complicité de ces crimes et association de malfaiteurs. Les deux autres suspects interpellés sont aussi des Tchadiens. Leur garde à vue peut durer 96 heures. Le général Nouri est un proche d'Hissène Habré, renversé en 1990 par Idriss Déby Itno, l'actuel président. Ministre de la Défense puis ambassadeur en Arabie Saoudite, il est entré en rébellion en mai 2006 et s'est installé au Soudan. En novembre 2006, il lance une première offensive avant d'être repoussé par l'armée dans l'est du Tchad. Deux ans plus tard, en février 2008, il lance une autre grande offensive sur N'Djamena avant d'être chassé par l'armée tchadienne avec un soutien décisif de la France. Le général condamné à mort au Tchad a été expulsé du Soudan en 2010. Il s'est exilé un an au Qatar avant de se réfugier en France.
Au Burkina Faso, la prison à vie a été requise lundi contre les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé, cerveaux présumés du putsch manqué de 2015, jugé avec plus de 80 autres accusés au cours d'un procès marathon à Ouagadougou. Diendéré est l'instigateur principal du coup d'État qui a fait 14 morts et 270 blessés, a estimé la procureure du tribunal militaire, la commandante Pascaline Zungrana. Les deux généraux avaient plaidé non coupables lors de leur comparution. L'audience reprendra le 27 juin pour les plaidoiries de la défense.
Au Niger, le Parlement a voté hier une loi pour régir l'exercice du culte. Le texte a recueilli 125 voix pour, 32 contre et 2 abstentions. Le point avec Abdourahmane Dia.
La loi relative à l'exercice du culte en République du Niger est adoptée déclarée au Sénat par le président du Parlement à l'issue du vote à main levée. Députés de l'opposition ont voté contre, jugeant la loi inopportune. Dans la nuit de samedi à dimanche, des manifestants ont incendié une église à Maradi, troisième ville du Niger. Ils protestaient contre l'arrestation d'un imam qui avait qualifié la loi d'anti-islam. Libéré dimanche, Cheikh Rayadoun a appelé ses partisans au calme et a indiqué avoir été induit en erreur par ceux qui lui ont traduit le texte du français au Hausa. Bazoum Mohamed, le ministre de l'Intérieur, a lui tenté de calmer les esprits. Cette loi n'a rien de contraire à l'islam, elle est faite pour dire comment désormais utiliser l'espace religieux, a-t-il affirmé. Selon un communiqué du Conseil des ministres en avril, le texte doit combler une absence totale de normes concernant l'exercice du culte dans un environnement sous-régional marqué par un développement de tendances religieuses fondamentalistes et extrémistes.
En Égypte, l'ancien président Mohamed Morsi a été enterré aujourd'hui au Caire, où il est décédé hier à l'hôpital après un malaise lors d'une audition au tribunal. Des détails avec Bagassi Koura.
L'ancien président en détention depuis juillet 2013 a parlé hier pendant 20 minutes devant un tribunal avant de s'effondrer. Il a été transporté à l'hôpital où il est décédé. Mohamed Morsi avait 67 ans. Il a été le premier président démocratiquement élu en Égypte pour une courte mandature entre 2012 et 2013 avant d'être écarté par l'armée. Il était emprisonné depuis sa destitution. Il avait été jugé par la suite dans plusieurs affaires, dont un dossier d'espionnage pour l'Iran, et des groupes militants comme le Hamas à Gaza. Le président turc Recep Tayyip Erdogan, allié de l'ancien président islamiste, lui a rapidement rendu hommage, le qualifiant de martyr. Depuis la destitution de Morsi en 2013, son ancien ministre de la Défense, Abdel Fattah al-Sisi, a mené une répression sans merci contre l'opposition islamiste et en particulier les frères musulmans, dont des milliers de membres ont été emprisonnés.
Au Soudan, le mouvement de contestation appelé hier à de nouveaux rassemblements nocturnes pour condamner le massacre de manifestants lors de la dispersion le 3 juin dans Sitin à Khartoum. Le point avec Morgane Guériec.
L'Alliance pour la liberté et le changement, fer de lance de la contestation, a mobilisé hier ses partisans pour de nouvelles manifestations nocturnes dans les quartiers résidentiels de Khartoum et d'autres régions pour réclamer un pouvoir civil de transition et pour la condamnation du massacre du 3 juin. Des milliers de manifestants participant à ce sit-in devant le quartier général de l'armée ont été violemment dispersés par des hommes armés en tenue militaire faisant des dizaines de morts. Le conseil militaire a reconnu jeudi, pour la première fois, avoir ordonné la dispersion du sit-in en regrettant des erreurs. Les États-Unis et l'Union africaine ont appelé à la reprise du dialogue suspendu depuis le 20 mai. Après une visite du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed à Khartoum, les chefs de la contestation ont cessé la campagne de désobéissance civile et ont accepté le principe d'une reprise des pourparlers avec le conseil militaire. Mais aucune date n'est fixée pour de telles reprises.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Un document officiel nord-coréen obtenu par la Voix de l'Amérique suggère que Kim Jong-un n'a aucune intention de renoncer à son arsenal nucléaire, une position qui semble contredire la certitude de l'administration Trump sur la volonté de Pyongyang de dénucléariser. Ce document, qui était destiné aux hauts responsables militaires nord-coréens avant le second sommet Trump-Kim Jong-un à Hanoï, établissait clairement les objectifs de ce dernier, un accord final pour être accepté comme un État nucléaire et aussi une plus grande consolidation de la puissance nucléaire que son régime a créée. Le sommet a été un échec. En réponse à des questions du service coréen de la VOA, le département d'État américain a réitéré l'attachement de M. Trump aux objectifs du premier sommet à Singapour, l'amélioration des relations bilatérales, la construction d'une paix durable et la dénucléarisation complète.
Le chef du Pentagone, Patrick Shanahan, a annoncé l'envoi de 1000 militaires supplémentaires au Moyen-Orient à des fins défensives. Auparavant, ses services avaient publié de nouvelles photos prouvant encore, selon Washington, que l'Iran était responsable de l'attaque la semaine dernière contre deux pétroliers étrangers dans le golfe d'Oman. On y voit des éléments des gardiens de la Révolution enlevant une mine non explosée de la coque du pétrolier japonais Kokuka Courageous, et une autre photo montre où la mine a été attachée. On peut voir aussi la cavité provoquée apparemment par une autre mine apposée sur la coque du même pétrolier. Pour le Pentagone, je cite, « L'Iran est responsable de cette attaque, comme le montrent les preuves vidéo et les ressources et les compétences requises pour retirer rapidement la mine aimantée non explosée. » Fin de citation. L'Iran a démenti dès le début être impliqué dans ces attaques.
Murtaza Kureiris, un jeune Saoudien de 18 ans, arrêté alors qu'il avait 13 ans et condamné à mort en août, ne sera finalement pas exécuté, ont indiqué lundi des militants, après que son cas a suscité de vives critiques à l'international. Les procureurs saoudiens avaient requis la peine de mort contre le jeune homme, issu de la minorité musulmane chiite, pour une série de griefs, dont sa participation à une manifestation antigouvernementale, selon des ONG.
La population mondiale devrait atteindre 9,7 milliards de personnes en 2050 contre 7,7 milliards aujourd'hui, avec un doublement des habitants de l'Afrique subsaharienne selon un rapport de l'ONU publié lundi. D'ici à 2050, plus de la moitié de la croissance projetée se concentrera dans 9 pays, Inde, Nigeria, Pakistan, République démocratique du Congo, Éthiopie, Tanzanie, Indonésie, Égypte et États-Unis.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
La Sénégalaise des eaux SDE va saisir la Cour suprême du Sénégal pour contester l'attribution au groupe français Suez du marché de la distribution d'eau après le rejet de ses recours devant l'autorité de régulation des marchés publics. Elle va aussi étudier la possibilité d'engager d'autres recours internationaux. La SDE, opérateur depuis 1996, conteste l'attribution du marché à Suez sous prétexte qu'elle avait proposé le plus bas, mais qu'aussi le groupe Suez est en conflit d'intérêts pour avoir remporté avec un partenaire local la construction d'une importante usine d'eau potable Kames 3. La Banque centrale du Nigeria a annoncé la fermeture des comptes bancaires des entreprises qui utilisent des devises étrangères illicites pour importer clandestinement des produits soumis à des restrictions. En 2015, la banque avait déjà restreint l'accès au dollar pour les entreprises qui importaient 43 articles comme du riz, du savon, les jets privés en passant par les encens indiens afin de préserver les réserves de change et diversifier son économie. Terminons avec la République démocratique du Congo où la justice a confirmé la suspension par le gouvernement de la licence 2G du groupe de télécommunications Vodacom. Cette société a 3 mois pour renégocier sa licence avec le ministère des télécommunications avant de passer aux enchères. Le renouvellement du permis coûte 65 millions de dollars. La suspension n'affecte pas les licences 3G et 4G de Vodacom au Congo.
Les sports à présent avec Yakuba Ouedraogo. Yakuba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Mondial féminin, l'Afrique du Sud est éliminée.
Oui, les Bayana ont été balayés par l'Allemagne 4-0 dans un match à sens unique. C'est la 3e défaite pour l'Afrique du Sud en 3 matchs. Les Allemandes, quant à elles, terminent première du groupe B avec 3 victoires et sont qualifiées pour les 8e de finale. La Chine et l'Espagne, qui s'affrontaient dans le même temps, ont fait un match nul 0-0 et disposent de 4 points chacune. C'est l'Espagne qui est 2e grâce à une différence de but favorable.
Le Nigeria est aussi tombé devant la France.
Les Super Falcons ont perdu in extremis 1-0 devant les Bleus qui ont rempli leur objectif de remporter 9 points et terminer première de leur groupe A. Dans l'autre match du groupe A justement, la Norvège a battu la Corée du Sud 2-1 pour prendre 6 points et la 2e place. Les Sud-Coréennes qui n'ont aucun point sortent bredouilles de la compétition. Mais les Nigérianes, elles peuvent encore espérer. Avec 3 points, elles peuvent figurer parmi les 4 meilleurs 3e qui seront reversés en 8e.
Francesco Totti démissionne de son poste de dirigeant. Jean à l'AS Rome.
J'ai envoyé un mail pour moi inimaginable, j'ai donné ma démission. Je pensais que ce moment n'arriverait jamais, a déclaré Totti, l'ancienne icône de l'AS Rome où il a joué pendant 24 ans avant de prendre sa retraite en 2017, a expliqué qu'il partait parce que depuis qu'il est devenu l'un des dirigeants du club, il n'a jamais été impliqué dans aucune décision importante. Une mise à l'écart qu'il attribue au propriétaire de l'AS Rome, l'Américain James Palota, l'ex-capitaine et milieu de terrain de la Roma, 42 ans, a toutefois expliqué qu'il s'agissait là d'un au revoir, pas d'un adieu, sans préciser quels étaient ses projets.
Mohamed Salah ne compte pas quitter Liverpool.
À en croire le Daily Mail, l'attaquant égyptien des Reds a décidé de poursuivre son aventure à Anfield Road, en dépit de l'intérêt des plus grands clubs et surtout du Real Madrid, qui s'est penché sur son cas ces derniers temps. Après la victoire en finale de la Ligue des Champions, Salah a été un peu flou concernant son avenir, inquiétant les fans de Liverpool. Le quotidien britannique indique qu'il voulait simplement étudier toutes les options concernant son avenir. Auteur de 38 matchs et 22 buts en Premier League cette saison, l'ancien joueur de Chelsea devrait encore régaler le championnat anglais lors du prochain exercice.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Niger, et nous vous le disions en première partie, le Parlement a adopté hier une loi qui réglemente l'exercice du culte dans le pays. Un texte mal interprété dans un premier temps par des leaders religieux qui le qualifiaient d'anti-islam. L'arrestation d'un de ces leaders a donné lieu le week-end dernier à des manifestations à Maradi dans le sud du pays où une église a été incendiée. Le point avec notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
La loi relative à l'exercice du culte en République du Niger est adoptée.
Sur les 169 parlementaires présents, 125 ont voté oui à la nouvelle loi qui détermine les modalités du libre exercice du culte au Niger. Elle a pour vocation essentielle, selon l'exposé des motifs fait devant le Parlement par le ministre de l'Intérieur, de donner au gouvernement les moyens d'un plus grand contrôle des pratiques en cours dans la sphère religieuse, dans le but notamment de prévenir les risques de dérive constatés dans d'autres pays. Mohamed Bazoum.
Cette loi est faite pour dire comment désormais utiliser l'espace que nous avons en partage dans le cadre de l'exercice par chacun d'entre nous de sa foi. Comment construire une mosquée? La règle est définie mais elle n'est pas écrite. Elle sera écrite. Comment faire des prêches? La règle n'est pas écrite mais elle existe plus ou moins bien appliquée. Il faut l'écrire de façon détaillée à travers des arrêtés et des décrets qui vont être générés par cette loi et tout le monde va les respecter. Voilà la teneur de cette loi, les enjeux qui la sous-tendent et les objectifs que nous lui assignons. Elle n'a rien de contraire à l'islam. Elle n'est pas faite pour réduire le rayonnement de l'islam. Elle n'est pas faite pour apporter des obstacles dans la pratique de l'islam.
Loin donc de tout ce qui avait été véhiculé dans l'opinion et qui a conduit au prêche de l'imam de Maradi, dont l'interpellation a été suivie par les manifestations du week-end dans la capitale économique du Niger. Selon le ministre Bazoum Mohamed, sur les 105 associations islamiques du pays, 8 seulement ont rejeté le texte lors de son élaboration dans le cadre d'un processus participatif. Après ce quittus du Parlement, le ministre leur répond ceci.
Je leur dis que c'est la règle de la démocratie qui a prévalu comme ça. Elle ne voit pas le bien fondé d'un texte qui réglemente tout simplement la pratique de la religion. Elles disent qu'on n'a pas besoin de règles, mais je vous ai dit que certaines parmi elles nous saisissent souvent pour nous dire qu'elles font l'objet de brimades de la part d'autres associations, qu'elles sont souvent en tension et c'est nous qui arbitrons. Si nous n'avons pas de texte de référence pour les appliquer contre ceux qui exercent sur eux ces brimades-là, nous ne pourrions rien faire. Je pense qu'elles sont comme ça en flagrante contradiction.
Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique à Niamey au Niger sur le 102.5 FM 24h sur 24.
En République centrafricaine, la capitale Bangui est frappée depuis plusieurs jours par une pénurie d'hydrocarbures. De longues queues de voitures, motos et personnes avec des bidons sont observées devant les stations-service. Une situation qui affecte non seulement les activités de la population, mais aussi l'économie du pays. Reportage de notre correspondant Freeman Sipila.
Cela fait 2 semaines déjà que cette crise d'hydrocarbures perdure à Bangui et dans certaines villes du pays. Toutes les stations-service sont prises d'assaut, mais le carburant y coule à compte-gouttes. Pour s'en procurer, il faut passer des heures, voire toute une journée dans la queue. L'exaspération est grande chez les consommateurs.
On a fait des queues jusqu'à fatiguer.
C'est beaucoup difficile, surtout pour nous les taxis-motos. Et puis, vous voyez que les clients, en train de nous donner seulement 150 francs, 100 francs pour faire 2, 3, 4 à 5 kilomètres.
Cette situation laisse libre cours à la spéculation. Des revendeurs occasionnels s'entendent avec les pompistes, achètent du carburant en grande quantité et revendent cher devant les stations. Jean Fernand est journaliste, il a aussi enquêté sur cette pénurie.
Comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Les vendeurs à la sauvette qui essayent de profiter de cette situation, eux, ils trouvent moyen, quelque part, de gérer directement avec plus de carburant à quantité. Mais ces carburants qu'ils vont avoir entre les mailles, ils vont faire en faisant en faisant un peu le mélange avec le pétrole pour avoir beaucoup plus de quantité que eux, ils vont revendre encore plus cher.
L'Observatoire centrafricain des consommateurs monte au créneau et appelle à la fermeté contre les marketeurs, c'est-à-dire ceux qui approvisionnent le pays en carburant. Marcel Moukwapi, son président.
Dans nos renseignements, nous savons qu'il y a suffisamment de carburant donc au dépôt. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une politique de surenchère ou de pénurie provoquée. Est-ce que c'est de connivence avec les vendeurs ambulants? Est-ce de connivence? Est-ce que les autorités le savent? Ils le savent. Pourquoi ils ne tapent pas sur la table? C'est ça leur devoir.
À l'origine de cette crise, un incendie survenu le 31 mai dernier à la raffinerie de Sonata à Limbé, au Cameroun, une des principales voies de ravitaillement de la République centrafricaine en hydrocarbures. Ne voulons pas parler d'une pénurie, le ministre de l'énergie et de l'hydraulique annonce des mesures pour ravitailler la capitale. Herbert Gontron, Jono Abba.
Des actions sont en train d'être menées pour permettre aux marketeurs de continuer à assurer l'approvisionnement régulier du pays. Une cargaison de 3000 mètres cubes contenant du super, du jet A1 et du gasoil est en chargement à 7 Congo, Kinshasa, pour la remonter sur Bangui. Aussi, les commandes faites avant l'incendie de Sonara continuent d'être acheminées sur Bangui par camion-citerne.
Le député de l'opposition André Nalkédorogo exige une enquête parlementaire car pour lui, la loi sur le stockage des produits pétroliers n'est pas respectée.
La représentation nationale qui est chargée du contrôle de l'action du gouvernement au travers de la commission production, ressources naturelles, développement durable et environnement, cette commission devra se saisir ou bien s'auto-saisir pour mettre en place une commission d'enquête parlementaire afin que rapport soit produit et mis à la disposition de l'opinion nationale, notamment du peuple centrafricain.
Plusieurs activités sont au ralenti à Bangui en raison de cette pénurie. La population appelle les autorités à vite décompter la situation. Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Bangui, c'est sur 101.7 FM en République centrafricaine.
Le Cameroun peut-il de son côté continuer à approvisionner son marché local en gaz domestique et à maintenir les prix des hydrocarbures après l'incendie partiel dans la nuit du 31 mai dernier de la Société nationale de raffinage, la Sonara? Cette question a été au centre d'une concertation à Yaoundé, au cours de laquelle le gouvernement a annoncé des mesures de stabilisation des prix. De Yaoundé, la correspondance d'Emmanuel Juntap.
Il n'y aura pas de pénurie de gaz domestique au Cameroun après la destruction par les flammes de 4 des 13 unités de raffinage de la Sonara. Les assurances sont du président du groupement des producteurs de pétrole, Jean-Périal Nyandok.
Les mesures sont prises pour que l'approvisionnement continue de se faire comme il se fait depuis de nombreuses années à travers des importations qui couvrent le déficit de la production locale. Les prix restent les mêmes. Vous trouverez du gaz partout dans le pays. Le gaz continuera à être distribué comme par le passé.
80% du gaz domestique vendu au Cameroun est importé. En 2019, la Sonara a prévu produire 35 000 tonnes métriques de gaz domestique pour le marché local. Des ambitions qui ne seront plus atteintes, car la réhabilitation de ces structures de stockage va prendre au moins un an, selon le ministre de l'Eau et de l'Énergie. Un délai qui ne semble pas faire paniquer le directeur général de la Caisse de stabilisation des hydrocarbures, Oki Johnson-Ndo.
Une bonne nouvelle pour nos ménages, il y aura suffisamment de gaz et à des prix homologués.
La bouteille de gaz domestique de 12 kg et demi, la plus utilisée dans les ménages, coûte 6 500 francs CFA. Les distributeurs sont contraints de respecter ce prix, rappelle Jean-Périal Nyondo, du groupe des producteurs de pétrole.
Ils n'ont aucun besoin de jouer à la spéculation, de faire monter le prix. Il y aura un approvisionnement régulier. Ils doivent jouer leur rôle de partenaire des marketeurs et faire leur travail dans le strict respect des prix qui sont fixés.
Les associations des consommateurs sont aussi mises à contribution pour éviter toute situation préjudiciable. Delor Magelin Kamgem Kamse, président de la Ligue camerounaise des consommateurs.
Nous invitons les consommateurs à la vigilance et à signaler aux autorités
tout cas suspect de spéculation parce qu'on ne laissera pas que certains marketeurs véreux puissent enrichir sur le dos des consommateurs alors qu'on a reçu les assurances du gouvernement.
Le ministère du Commerce, pour sa part, rassure que les capacités de stockage actuelles en gaz domestique et les commandes en cours de livraison peuvent satisfaire les besoins des consommateurs. Certains y croient et d'autres pas.
Je suis totalement rassuré par cette décision. J'espère juste que les choses seront maintenues telles quelles et que d'ici la fin de l'année, nous n'aurons pas affaire à un changement de fréquence comme c'est souvent souvenu avec le gouvernement.
Il n'est pas question d'être rassuré. Nous nous sommes habitués. Hein? Si l'État augmente, on va continuer à acheter comme d'hab. On nous impose les prix et puis nous on fait avec.
La demande nationale en gaz domestique en 2018 a dépassé 3 millions de bouteilles. Yaoundé, Emmanuel Jelunta, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Pour terminer, l'état de Benue au Nigeria pourrait découvrir ou redécouvrir une boisson locale qui fait beaucoup parler d'elle, le burukutu, une boisson alcoolisée traditionnelle. Reportage de notre correspondant Gilbert Tamba.
Issu de la fermentation naturelle du sorgho et du millet, ce vin local appelé burukutu est un ingrédient indispensable à la sauce vinaigrette et aussi indispensable des mariages et des concerts. D'autres le consomment pour ses nombreuses vertus. Christiane Nweze est âgée de 38 ans. Elle réside dans le quartier de North Bank, dans la banlieue de Makurdi, la capitale de l'état de Benue. La production de ce vin local est devenue son activité principale depuis 5 ans.
Nous produisons le burukutu à partir du sorgho. Nous le mettons dans l'eau et après quelques jours, nous obtenons une germination du sorgho. Ensuite, on le transforme en pâte à l'aide d'une machine avant de le faire bouillir au feu. Nous prenons soin de ne pas y ajouter des produits chimiques. On le laisse naturel.
Malgré sa haute valeur nutritionnelle, le burukutu était surtout jusqu'ici consommé par les personnes âgées et les moins privilégiées de la société en raison de la manière peu hygiénique dont il est conservé. Mais récemment, la situation a changé. À cause des difficultés économiques, riches et pauvres, jeunes et vieux utilisent maintenant cette boisson. Seule une minorité est capable de s'acheter de la bière. Godwin Tchokohod est un habitant de Benue. Il nous parle des avantages économiques du burukutu.
Les avantages économiques du burukutu sont multiples. Vous avez vu qu'elle vient de nous servir dans un gobelet qui mesure 4 litres. C'est pour plusieurs personnes. On a partagé ça entre nous. Je ne peux pas partager une bouteille de bière avec mes amis. Mais les 4 litres qu'elle nous a donnés peuvent être partagés entre 10 à 20 personnes. Donc cette boisson est plus économique que la bière.
De l'avis des médecins, une consommation abusive de cette boisson peut avoir des effets néfastes. Mais certains y voient surtout des aspects bénéfiques. C'est le cas de Deborah Emmanuel Doshima.
Ce vin nous aide à soigner certaines maladies comme la fièvre. C'est aussi économique et en plus c'est un bon remontant. Lorsque vous le prenez, vous ne vous sentez pas drogué comme avec les autres produits alcoolisés, mais vous vous sentez physiquement très en forme.
Le burukutu, qui fait partie de la culture locale, gagne de plus en plus le cœur des populations de Benue, mais aussi d'autres états du Nigeria. Gilbert Tamba, à Benue, pour VOA Afrique.
Hello, hello, I'm your English host. Je suis votre présentatrice pour l'anglais, Michelle Joseph, ici au micro. Voulez-vous mieux parler l'anglais? C'est fait. Retrouvez-moi tous les soirs à partir de 21h, temps universel, sur VOA Afrique et sur notre site internet à www.voaafrique.com. Cliquez sur Apprenez l'anglais pour retrouver les leçons de tous les jours. Et les week-ends sur ondes courtes, le samedi et le dimanche à 20h TU. Pour mieux parler l'anglais, to speak better English, ne ratez pas English USA sur VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24h sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Le Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Daryl Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.